On est ravis ce soir d'accueillir Steffen Mank. Schön, dass Sie da sind. Aber das freut uns ganz besonders. Und zwar, on vous accueille ce soir ici à l'occasion de la tradition de la publication de votre pas dernier livre. Il y a un autre livre qui est sorti entre-temps en Allemagne, mais le dernier livre, enfin le grand succès de vous en Allemagne, Lütgen Klein, et une continuation en français, Vivre en Allemagne de l'être, qui vient d'être publié dans la bibliothèque allemande, les éditions de la Maison Sciences de l'Homme, et je tiens à remercier toute la fondation de la Maison de Sciences de l'Homme, et surtout des Synagogues. Ça me fait grand plaisir, merci beaucoup. C'est une longue coopération, évidemment, je tiens à remercier aussi Pascal Roulon, puisque c'est la bibliothèque allemande qui vient porter. Merci beaucoup. C'est une longue coopération qui lie le deux instituts. Et MSH, là, MSH, 1984. On était encore petit. Longue opération de soutien à la publication des ouvrages des sciences humaines et sociales de langue allemande, germanophone, venant du espace germanophone en France. Grand succès, je pense, et on est ravis, on essaye toujours de choisir des ouvrages qui développent un certain poids en Allemagne. Et c'est le cas de Lütgen Klein, qui a eu vraiment, comme je le disais, un succès en Allemagne, qui a été perçu comme un vrai livre de découverte et d'explication. Et là, il y a encore un grand besoin de cette explication de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans les Länder de l'Allemagne de l'Est. Là, vous allez voir qu'on a une discussion qui sera animé, je tiens à remercier aussi Frau Elisa Gudenstein, ma maîtresse de conférence à Paris 3, si je ne me trompe pas, vous me corrigez.
Oui, c'est ça.
Et spécialiste aussi, on peut le dire, entre autres des matières autour de la RDA, vous allez animer cette rencontre avec Steffen Mank ce soir. Dernier remerciement, vous avez une longue liste des partenaires de ce beau programme autour de la bibliothèque allemande, évidemment le DAAD, et on a en français l'Office allemand d'échange universitaire, le Centre Georg Simmel, le chercheur allemand en sciences sociales, et l'École des hautes études en sciences sociales Paris. Je regarde Bettina Zum si j'ai oublié quelqu'un. Tout va bien jusque-là. Donc il me reste encore à vous souhaiter une très belle soirée, une soirée intéressante avec Steffen Mank. J'en ai enfin tout. Peut-être dans une letzte Frage. Dernière question. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que vous êtes plutôt du côté langue allemande ou langue française? On a des traductrices, traducteurs ici qui vont assurer évidemment une traduction juste pour savoir comment on s'organise. Plutôt été une traduction constitutive en français? Faites-moi un petit signe.
Oui,
oui, très bien. Donc on va procéder ainsi. Donc ça, c'est réglé aussi. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Steffen Mank und Frau Gudenstein.
Bonsoir à toutes et tous. Donc je vais, merci d'abord pour l'invitation. C'est un grand honneur de présenter cet ouvrage qui m'a beaucoup intéressée. Donc c'est un ouvrage qui pose beaucoup de questions. On va en voir une partie aujourd'hui, et notamment cette question centrale de comment on raconte l'histoire. Comment on met en récit l'histoire, et en particulier l'histoire de la RDA. Comment faire pour raconter cette histoire en lui rendant justice, en rendant justice à ce que la RDA a été en tant qu'État, donc une dictature, une des pires du bloc de l'Est, mais aussi en tant que société, et donc justement pas seulement une dictature. Elle était aussi autre chose, et vous le dites d'ailleurs, si on avait tenté de raconter l'histoire de la RFA en parlant uniquement de la répression des homosexuels, des élites nazies qui ponctuellement continuaient à être influentes, de la police, etc., tout le monde aurait dit « mais c'est vrai, mais c'est pas que ça, la RFA ». D'où la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible dans les années 90, au début, de le dire aussi pour la RDA? Ça n'était pas que la Stasi. Donc il y avait certes aussi des DDR shows, par exemple, à la télévision, mais qui, pour le coup, montraient une image de la RDA totalement hors contexte, en ne parlant plus du tout de politique, donc le phénomène de Verklärung. Et c'était complètement l'extrême inverse. Et ce que vous faites, vous, c'est justement essayer de raconter l'histoire de la RDA, mais sans, justement, sans jugement à l'emporte-pièce, sans essayer ni de minimiser la dictature, ni de la rendre plus glamour, ni de faire clair, pour reprendre le terme. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce livre a été aussi un tel succès. Et en ce sens, c'est aussi une contribution à ce que vous appelez, donc, en reprenant le terme que vous citez, hein, de l'historien Carsten Krampitz, eine Aufklärung der DDR-Geschichte. Donc, une façon de se confronter à la façon dont on s'est confronté à l'histoire de la RDA. Donc ça, c'est l'objectif. Et je vais dire un mot maintenant des moyens que vous mettez en œuvre pour atteindre cet objectif. Alors, c'est d'abord, comme le titre le dit, une micro-histoire combinée aussi avec la perspective macro historique, donc vous jouez sur les échelles en prenant Luttenklein comme une micro-échelle d'observation. Voilà, alors là c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existait déjà, on l'a déjà vu, c'est même une approche relativement ancienne. Juste très rapidement, dès les années 1870, il y a eu des réflexions chez les historiens sur ce jeu sur les échelles, sur la micro-histoire. En particulier, à partir d'un article publié par un historien de l'art, Giovanni Morelli, dans les années 1870, qui disait que les musées en Europe étaient pleins de faux, de tableaux donc, qu'on attribuait à un peintre par erreur, parce qu'on s'attachait trop aux tableaux globalement, et qu'il fallait regarder les ongles, etc., pour savoir quels étaient, donc s'attacher aux petits détails, pour établir qui était vraiment l'artiste qui avait peint le tableau. Donc, que la vérité réside plus dans les détails parcellaires que dans l'ensemble. Et c'est des réflexions qui ont des applications en psychanalyse, mais aussi justement en histoire. S'attacher à une analyse micro-historique qui va dire bien plus, parce que ce que vous dites dépasse bien évidemment Luttenklein, permet d'établir des vérités sur bien autre chose que ce niveau micro-historique. Ça, c'est la première chose importante. Deuxième moyen mis en œuvre, vous prenez votre propre histoire comme sujet de recherche. Et en retournant donc, dans le quartier où vous avez grandi, un peu comme Didier Ribon, par exemple, dans Le Retour à Reims, qui a aussi fait cette démarche de prendre sa propre histoire comme objet d'une narration. Là aussi, vous n'êtes pas l'inventeur de cette méthode, mais vous l'utilisez. Et il y a même eu en France des théories sur ce que ça impliquait, enfin, en France entre autres, hein, sur ce que ça impliquait de prendre sa propre histoire comme sujet de recherche. Christophe Prochasson, par exemple, a écrit Les historiens dans la mêlée. Le titre, c'était L'Empire des émotions, pour montrer que s'il y a une objectivité en histoire, en tout cas, elle n'a rien à voir avec la neutralité. Ce n'est pas une histoire d'être neutre qui permettrait d'être objectif, bien au contraire. Ça vous permet justement, cette vision des choses, d'écrire une autobiographie collective. D'ailleurs, vous posez la question comme ça. « Was haben wir gelebt ?» C'est-à-dire, qu'avons-nous vécu en RDA? Page 18. Alors, je donne quelques exemples, justement, sans les dévoiler tous, mais de quelques exemples de l'émotion qui naît quand vous racontez ces histoires-là. Déjà, par exemple, le moment où vous apprenez la chute du mur de Berlin en tant que soldat dans l'armée de RDA grâce à une petite radio cachée. La visite de Fidel Castro, par exemple, aussi. Ou encore un collègue de travail de vos parents qui avait commencé à construire un sous-marin pour s'enfuir et qui finit en prison. Les journées à l'armée tellement difficiles qu'on avait du mal à lire une lettre tellement on était épuisé. Voilà, tout un tas. Par exemple, Arthur Mayer aussi, vous citez l'anecdote de, à l'Institut für Marxistisch-Leninistische Soziologie de l'Université Humboldt, où il avait recouvert de peinture les mots marxistisch-leninistisch, mais on voyait à travers encore enfin, ces petits détails que vous montrez et qui permettent de vraiment vivre la grande histoire que vous racontez. Un dernier exemple, l'ancien propriétaire d'une veste en cuir qui est revenu des mois après dans l'appartement de Berlin, squatté, comme c'était très souvent le cas à l'époque, qui était tout content de retrouver sa veste en cuir que vous puissiez la lui donner. Ça, c'est vraiment des choses qui... l'histoire est vraiment très incarnée. Et ça nous montre un peu l'histoire de ces années de transition, justement. Ou encore... quand vous revenez dans votre appartement, l'appartement où vous avez grandi à l'été 2018 et que dans la chambre que vous occupiez étant enfant, deux petites filles afghanes prennent un cours d'allemand, où vraiment on voit l'actualité qui arrive dans votre chambre d'enfant. Voilà, il y a plein d'autres exemples, vous verrez en découvrant le livre, mais qui montrent comme ça tout ce que ça implique quand un historien prend sa propre histoire comme objet de recherche. Et enfin, troisième et dernier point de votre méthodologie, vous écrivez, je pense, ce qu'on peut classer comme une histoire du quotidien, donc Alltagsgeschichte, et vous montrez justement que le quotidien permet d'arriver à des conclusions sur bien autre chose que le quotidien, finalement. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit une dichotomie entre une histoire par en bas de Luttenklein ou une histoire par en haut. Cette polarité n'a pas beaucoup de sens selon moi. Mais ça veut dire que justement, vous essayez de montrer tous les aspects de la vie. C'est pour ça que ça s'appelle vivre, Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Dans plein de domaines, l'habitat, le logement, les loisirs, les relations amoureuses, etc. Avec l'idée aussi que le sous-titre, donc Transformationsgesellschaft, est très important, aussi on le voit dans la traduction. Ce n'est pas une transition qui irait d'un point A à un point B, donc d'une situation de départ à une situation d'arrivée, mais plutôt une constante, une reconfiguration permanente des choses. Voilà. Et ça vous permet de montrer les aspects concrets de ce qu'on ne perçoit parfois que par des statistiques. Quand on voit les statistiques sur le fait que les hommes dominent, parce qu'il y a 2/3 des personnes qui sont parties de RDA étaient des femmes, et que donc il y a d'un point de vue démographique, une masculinisation de ces sociétés. Là, vous en montrez vraiment les conséquences très concrètes, et en n'éludant pas le thème de la façon dont l'extrême droite récupère ce malaise en promettant une compensation matérielle, mais aussi une compensation émotionnelle. On le voit donc aussi à travers vos développements sur le chômage, qui est bien plus que la perte d'un emploi, puisque en RDA, le travail structurait vraiment la vie sociale. On fêtait les anniversaires dans le cadre des entreprises, on avait des sorties, des loisirs, du sport dans le cadre des entreprises, des crèches dans le cadre des entreprises. Donc ça structurait beaucoup plus la vie sociale que ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Voilà. Et puis, là aussi, sur le travail, vous montrez des anecdotes personnelles, notamment un poème que vous avez écrit dans le cadre de votre entreprise à l'époque et dont vous espérez qu'il n'est plus possible de le retrouver dans les archives. Alors, voilà. Non, je rigole. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai cherché.
Es ist leider wieder aufgetaucht. Ah,
okay. Malheureusement, il a refait son apparition.
D'accord. Voilà. Mais ça permet comme ça de montrer les implications. Alors, ma première question, du coup, est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, comme risque et comme avantage à prendre sa propre histoire comme objet de recherche? Vous dites au départ qu'il y a à la fois de la distance, sowohl Distanz als auch Nähe, que vous éprouvez à la fois de la distance et de la proximité à Luton Klein. Alors, qu'est-ce qui est encore familier pour vous à Luton Klein? Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus cette dialectique entre distance et proximité?
Ja, ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen mit der Übersetzung. Ja, erstmal vielen Dank an das Goethe-Institut, dass Sie mich eingeladen haben hier heute Abend und natürlich vor allen Dingen an den Verlag, dass er das Buch möglich gemacht hat und an Christoph Lukese, der das Buch übersetzt hat und heute auch hier ist, worüber ich mich sehr freue. Und ich habe das Buch jetzt auch erst eine Viertelstunde in der Hand gehalten. Also es ist ein tolles Gefühl, dass das endlich fertig ist. Und das Foto hier auf dem Buch ist zufälligerweise auch noch ein Foto von dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das mittlere Haus. Und hier bin ich immer jeden Tag zur Schule lang gegangen im Prinzip. Also das passte wunderbar. Es gibt nämlich hunderte Häuser in Luton Klein. Das ist nicht das einzige.
Alors tout d'abord, merci à l'Institut Goethe pour cette invitation et merci aussi à la maison d'édition qui a rendu cet ouvrage possible. Merci aussi à mon traducteur, Christophe Lequeze, qui est parmi nous ce soir et je suis heureux de le rencontrer. Et je viens moi-même de récupérer la version française, il y a un quart d'heure que je l'ai entre mes mains, donc je suis vraiment ravi. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que sur cette version française, la photo présente justement l'immeuble dans lequel j'ai grandi, c'est celui du milieu. Et donc, pour moi, c'est particulièrement touchant de voir que on est retombé sur cet immeuble-là, alors qu'en fait, il y en a quand même beaucoup d'autres à Luton Klein, et c'est celui dans lequel j'étais.
Die Herangehensweise beim Buch war von Anfang an so ein bisschen zwiespältig, und ich habe mich auch eine Weile sehr schwer getan, den richtigen Ton und den richtigen Zugang zu bekommen. Ich hätte ja ein Buch über Ostdeutschland schreiben können, über die Transformation der ostdeutschen Gesellschaft, in dem ich überhaupt nicht vorkomme und mich als Autor unsichtbar mache. So macht man das normalerweise. Jemand schreibt ein Buch über die französische Gesellschaft und tut so, als sei er quasi ein objektiver Beobachter des gesamten Prozesses oder über die deutsche Sozialstruktur. Das ist für die ostdeutsche Gesellschaft nicht so einfach zu machen, weil die DDR untergegangen ist und man trotzdem natürlich auch viele innergesellschaftliche Konflikte über die Interpretation Ostdeutschlands hatte. Und man könnte jetzt sagen, es ist unwissenschaftlich, so stark subjektiv und auch biografisch, so einen historischen Verlauf zu beschreiben. Die Gegenposition wäre, es ist auch sehr wissenschaftlich, die eigene Position in dem Forschungsfeld erstmal kenntlich zu machen und sichtbar zu machen, aus welcher Perspektive man spricht.
Alors, il y avait deux approches possibles pour écrire ce livre, et pendant longtemps, j'ai hésité entre les deux, et ça a vraiment été un choix difficile. J'aurais pu écrire ce livre sur la société est-allemande, sans m'y impliquer, en y étant totalement invisible, tout comme on peut décider d'écrire un livre sur la société française d'un point de vue totalement objectif, comme si on n'en faisait pas partie. Mais pour parler de la société est-allemande, ce n'était pas si simple, parce que justement, elle n'existe plus. Et pourtant, les conflits d'interprétation sur ce qu'elle a été continuent, eux, d'exister. Et donc, voilà, il y avait ces deux approches possibles. On pouvait considérer que c'était pas du tout scientifique de s'impliquer personnellement dans le récit. D'un autre côté, on peut aussi, à l'inverse, considérer que justement, s'identifier clairement dès le départ, montrer quelle était clairement sa position par rapport au sujet abordé, c'était finalement aussi très scientifique.
Natürlich war es auch schwer, nach Luton Klein zurückzukommen, weil ich auch Schwellenangst hatte und mich natürlich auch entfremdet habe. Ich bin 1988 da weggegangen. Meine Eltern haben dann noch eine Weile dort gelebt und dann bin ich auch immer wieder hingefahren. Aber es war nicht so, dass ich die letzten 25 Jahre kontinuierlich intimen Kontakt mit der Gesellschaft vor Ort hatte. Und diese Schwelle musste man erstmal überwinden. Und man kommt auch in eine andere Rolle, nämlich in der Rolle als Wissenschaftler. Ich habe mich auch als Wissenschaftler zu erkennen gegeben und auch gesagt, dass ich gerne ein Buch über Luton Klein schreiben möchte. Und die Möglichkeit, bei den Leuten anzuklopfen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder auch alte Kontakte wieder zu reanimieren, die ergab sich letzten Endes vor allen Dingen dadurch, dass ich diesen Stallgeruch hatte, dass sozusagen dieses Herkommen sehr ähnlich war und dass es auch so eine Art von Hintergrundgemeinsamkeit gab. Das hat die Leute lockerer gemacht. Wenn ich als Professor der Humboldt-Universität Berlin dort geklopft hätte, dann hätte ich ganz andere Gespräche gehabt. Aber wenn ich als jemand dort klopfe und sage, ich bin in Lüttenklein aufgewachsen und habe dort 20 Jahre gelebt, dann gab es sozusagen eine viel leichtere Öffnung. Das habe ich natürlich sehr bewusst ausgenutzt. Zugleich war es schwierig, sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Bekanntem und Entfremdung auszubalancieren. Das ist auch für die Darstellung in dem Buch natürlich sehr wichtig gewesen, dass man den richtigen Ton findet, ohne sich mit dem Gegenstand gemein zu machen und ohne über ihn zu urteilen und alles besser zu wissen. Und das, ob das jetzt gelungen ist, das müssen die Leserinnen und Leser beurteilen. Aber das war so ein bisschen so ein Anspruch, den ich hatte, mich nicht über die Gesellschaft vor Ort zu erheben, aber auch nicht ihr Anwalt zu werden, sondern sie durchaus auch kritisch zu verstehen.
Alors, ça n'a pas été facile non plus de retourner à Lüttenklein parce que j'en étais parti en 1988. Mes parents ont encore vécu là-bas pendant pas mal de temps, donc j'y suis retourné régulièrement pour leur rendre visite. Mais depuis 25 ans, je ne vivais plus là-bas, donc je n'étais plus intime de la situation sur place, je n'y avais plus les mêmes contacts. Et il a donc fallu d'abord surmonter cet obstacle. Et puis, je me suis toujours aussi présenté en arrivant sur place dans mon rôle de scientifique en expliquant que je venais pour écrire un livre sur Lüttenklein. Ça m'a permis de frapper à certaines portes, de renouer d'anciens contacts. Et ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est justement que je venais de là, que j'avais cette tonalité locale, que j'avais vécu le même passé qu'avaient vécu les habitants de Lüttenklein. Ce n'était pas un professeur de l'université de Humboldt qui arrivait là pour parler à des gens qu'il ne connaissait pas. J'avais vraiment grandi ici, j'y avais vécu les 20 premières années de ma vie et c'était un point d'entrée, un point de contact qui facilitait beaucoup les choses. Et bien entendu, j'en ai joué, mais ça a été quand même assez difficile de trouver le juste équilibre entre ce qui nous réunissait, les habitants de Lüttenklein et moi, et ce qui nous distinguait par le fait que j'en étais parti depuis si longtemps. Et c'était important aussi pour réussir le livre de trouver le bon équilibre entre ces deux aspects, de trouver le bon ton, de ne pas faire comme si je faisais vraiment partie des gens du cru parce que je n'en étais plus, mais je n'étais pas non plus le juge, je ne me posais pas comme un juge qui les regardait d'en haut. Alors, est-ce que j'ai réussi cet équilibre? Je laisserai les lecteurs en juger, mais en tout cas, c'était l'ambition du livre. Et je ne voulais ni me présenter comme extérieur à la chose, ni comme au-dessus des habitants de Lüttenklein. Je ne voulais pas non plus me présenter comme leur avocat. Donc, c'était vraiment cet équilibre à trouver.
Oui, voilà, ça confirme cette idée que l'objectivité n'a rien à voir avec la neutralité. Ce qui est important, c'est de ne pas taire de quel point de vue on parle. Et en effet, j'avais une autre question à propos de l'empiètement omniprésent du régime dans les affaires privées. Vous parlez de, je vous cite, die allgegenwärtige Übergrifflichkeit des Regimes auch in private Belange. Et alors, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, le mot « private » quel est le sens de « private » en RDA? Est-ce que pour vous, ce mot n'avait plus aucun sens en RDA?
Ja, wenn man jetzt sozusagen Vertreter der Totalitarismus-Theorie wäre, dann würde man sagen, es gibt eigentlich keine Privatheit, sondern die Repression des Systems dringt in alle Verästelungen der Gesellschaft ein. Ich würde trotzdem sagen, dass die DDR, die späte DDR, so etwas war wie eine kommode Diktatur. Keine gemütliche, aber eine Diktatur, in der sich viele halbwegs eingerichtet hatten und ihr Leben auch organisiert haben. Und dazu gehörte auch Privatheit. In der DDR sagte man, gab es so einen Spruch, der heißt, privat geht vor Katastrophe. Also, dass doch die Privatheit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und man sich auch versucht, natürlich abzugrenzen. Das war natürlich auch eine Überlebensstrategie, dass zum Beispiel die Familie oder der Freundeskreis eine Art von Rückzugsort war gegen die Zudringlichkeiten des staatlichen Regimes, auch gegen die Massenorganisationen. Da ging es nicht immer nur um die Stadtsicherheit, sondern darum, dass im Prinzip versucht wurde, natürlich mit den Mitteln der Politik den gesamten Alltag auch zu strukturieren. Die klassische, wie in bürgerlichen Gesellschaften zwischen öffentlich und privat, das gab es in dieser Form natürlich nicht, aber es gab eine Form von Privatheit, es gab eine Form von Familienorientierung, es gab sehr starke auch soziale Netzwerke, in denen sich sehr viel Eigensinn herausgebildet hat, ein Eigenleben, das ich eben nicht politisch kontrollieren kann. Und ich habe die These in dem Buch, dass die späte DDR mit ihrer Bevölkerung auch eine Art von Stillhalteabkommen geschlossen hatte, natürlich unausgesprochen. Und das bedeutete, dass man nicht weiter sozusagen in die familiäre Sphäre, in die private Sphäre eindringt als notwendig, um den Leuten ein bisschen Luft auch zum Atmen zu lassen, aber auch weil man wusste, wenn man das machen würde, dann wäre die Gegenwehr und der Widerstand viel, viel stärker. Also dann würde viel mehr Dampf auf den Kessel kommen, sozusagen. Und das war sicherlich ein Grund, sondern der Versuch in diesem Buch ist ja, die DDR als Gesellschaft auch erstmal ernst zu nehmen. Denn es ist schon verblüffend, dass ein System, das so funktioniert, 40 Jahre überlebensfähig ist. Und diese Überlebensfähigkeit kam zum Teil eben daher, dass sich Leute durchaus in diese Gegebenheiten eingepasst haben. Das ist ja das Verblüffende, was man im Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann, wie es viele Menschen gab, die da einigermaßen zufrieden durchaus lebten, bis sozusagen die Stagnation und auch die Frustration gegenüber der Schwierigkeiten, überhaupt frei zu leben oder demokratisch zu leben, bis das zu stark wurde und dann auch gekippt ist.
Alors, si on voulait défendre la théorie du totalitarisme, on dirait que la sphère privée n'existe absolument pas, que la répression accède à tout et partout. Mais on pourrait aussi dire que la RDA, c'était une dictature accommodante dans laquelle la vie privée pouvait s'organiser. On disait souvent que la vie privée passait avant la catastrophe. Et ça montre bien à quel point le privé, la sphère privée, avait un rôle important à jouer. Elle était perçue comme le lieu de repli dans lequel on pouvait se protéger du régime. C'était l'endroit où on pouvait s'isoler, se retirer du régime. Et puis, il n'y a pas seulement le régime, le pouvoir, le gouvernement. Il y a toute l'organisation politique qui se faisait autour et qui allait à l'encontre de la vie privée, dont il fallait donc pouvoir se retirer en se repliant sur la sphère privée. Je pense pas seulement à la Stasi, je pense aussi à toutes les organisations, la structure politique qui organisait toute la vie dans la société, qui structurait absolument tout. Et donc, pour y échapper, il y avait la sphère privée, il y avait la famille, il y avait tous les réseaux qu'on constituait, tout le lien social qui jouait un rôle très important et qui donnait un sens aussi à la vie dans l'ensemble de la RDA. Et toute cette partie de lien social, de vie privée, elle échappait au contrôle du politique. Il y avait en quelque sorte, entre le pouvoir et les citoyens, une sorte d'accord de cessez-le-feu. On ne vous embête pas jusque-là. Le régime acceptait qu'on puisse se retirer dans la sphère privée. C'était une manière de permettre aux citoyens une respiration sans laquelle les résistances face à la pression du régime auraient été beaucoup plus fortes et auraient forcément conduit à ce que la pression monte dans la cocotte et qu'un jour ou l'autre, ça risque d'éclater. Bon, pour autant, il faut quand même prendre cet état de la RDA très au sérieux. C'est un système qui a fonctionné, bon an, mal an, pendant 40 ans, qui a réussi à survivre. Et s'il a réussi à fonctionner, malgré toutes ses failles, c'est aussi parce que les gens se sont adaptés. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y avait pas mal de citoyens de RDA qui étaient plutôt pas mécontents de leur sort, qui s'accommodaient des frustrations, de la stagnation de la société et qui surmontaient finalement comme ils pouvaient les difficultés. Et les choses ne sont devenues vraiment difficiles qu'au moment où les citoyens se sont aperçus que la liberté était aux portes et c'est là finalement que le système s'est effondré quand on a vu qu'on pouvait aspirer à autre chose. Mais en attendant, ça avait fonctionné.
Oui, je pense qu'on pourrait discuter de cette dichotomie entre ce qui est privé et cette emprise du régime que vous décrivez un peu comme étant partout. Parce que je pense que même dans certaines organisations de masse, même dans certains collectifs artistiques, de loisirs, etc., qui étaient des organisations du régime, finalement, les choses n'étaient pas toujours politiques dans le quotidien. Il y avait aussi, j'ai vu moi dans mes propres recherches, par exemple, des gens qui racontaient que dans des chorales, on disait qu'on allait chanter des chants politiques, etc., et puis on faisait tout autre chose, finalement. Et donc, le privé, enfin, des formes de Eigensinn se trouvaient aussi dans des espaces qui n'étaient pas que privés, je crois. Mais c'est un vaste débat. Peut-être que je peux passer à la question. J'ai une autre question qui... Oh non. Oui. À propos justement de ce qui reste de l'ERDA, donc cette fois-ci dans l'après, vous montrez avec des chiffres très clairs, hein, vous montrez que les Allemands de l'Est sont sous-représentés dans toutes les positions importantes, même à l'Est. Dans les médias, dans la vie économique, dans la recherche, la culture, la politique. Et vous ajoutez que c'est un peu moins vrai pour les femmes. Il y a une phrase là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant parce que il se trouve que j'ai lu une étude récente qui montrait que... les Allemandes de l'Est, les femmes allemandes de l'Est, comme les hommes allemands de l'Est, sont sous-représentées dans ces positions importantes, mais quand malgré tout, il y a un Allemand de l'Est à une position importante, alors la probabilité que ce soit une femme est très importante. Donc, ce qu'on appelle position importante, c'est par exemple des gens qui sont à la tête des grandes entreprises, des gens qui sont... président d'université, dans les directions des partis politiques. Et par exemple, dans les CA, les comités des 100 plus grandes entreprises ouest allemandes, il n'y a que 2% de femmes contre 25% pour les 100 plus grandes entreprises de l'ex-RDA. Donc un quart seulement, mais quand même un quart et non pas 2% de femmes. Parmi les membres de la direction de partis politiques, c'est 73% de femmes contre 27% de femmes ouest-allemandes. Et parmi les présidents d'université, c'est même 100% de femmes contre 20% de femmes. Donc, pour le dire vite, alors que les femmes ouest-allemandes, pardon, n'atteignent jamais 50% dans aucun des domaines qui sont dans cette étude, les femmes est-allemandes dépassent souvent ce chiffre. Et il y a une autre étude, cette fois de chercheurs français, Quentin Lippmann et Claudia Sénic, qui ont montré que les petites filles est-allemandes, à 12 ans, étaient meilleures en mathématiques que les petites filles ouest-allemandes, aujourd'hui. Donc des petites filles qui sont nées, qui n'ont rien à voir avec la RDA, qui sont nées bien après la chute du mur, mais qui sont plus confiantes dans leurs aptitudes en sciences et font davantage preuve d'un esprit de compétition dans les matières scientifiques. Donc c'est une nuance importante à apporter au constat de la sous-représentation globale qui reste vraie. Hein, les Allemands de l'Est sont globalement sous-représentés, mais avec cette nuance que c'est moins vrai pour les femmes et qu'il y a des choses qui ont pu être héritées de RDA et avoir encore des effets aujourd'hui dans l'Allemagne unifiée. Et ça m'amène à ma question. Vous faites ce constat donc de la sous-représentation globale des Allemands de l'Est et de la mobilité sociale en RDA, donc avant l'unification, en parlant de, alors je cite la phrase, hein, die DDR-Gesellschaft war durch eine nach unten zusammengedrückte Sozialstruktur und eine arbeiterliche Kultur geprägt. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette idée de eine nach unten hin nivellierte Gesellschaft, donc une société nivelée vers le bas. Et je voudrais savoir vers le bas par rapport à quoi? Est-ce que c'est une comparaison par rapport à la RFA? Qu'est-ce que ça signifie cette idée de mobilité sociale et qu'est-ce que ça signifie cette sous-représentation des Allemands de l'Est? C'est une vaste question, je sais.
Ja, das ist natürlich eine der zentralen Fragen in dem Buch. Also die Frage, wie sieht eigentlich die Sozialstruktur aus? Und ich beschreibe die DDR als Gesellschaft der kleinen Leute oder als proletarische werktätigen Gesellschaft, wo es so etwas gibt, was man vielleicht die Hofierung der Arbeiterklasse nennen könnte. Also dass sozusagen proletarische manuelle Tätigkeiten sehr wertgeschätzt werden und auch sehr einfache Lohngruppen zum Beispiel nach oben gedrückt werden. Also wenn ich jetzt mal sage, meine Mutter war Ärztin in der DDR, die hat, glaube ich, 950 Mark der DDR. Ich möchte das jetzt gar nicht in Euro umrechnen, aber 950 Mark der DDR verdient. Und ein Facharbeiter, mit dem ich gearbeitet habe, der hat über 1000 Ostmark bekommen. Also das heißt, diese akademischen Berufe sind nicht besonders gut bezahlt worden. Es gab keine Differenz. Im Durchschnitt haben sie so 30-40% mehr verdient als ein einfacher Arbeiter in Westdeutschland zur selben Zeit, das 2,5-fache. Also das war so, ist sozusagen diese Nivellierung der Sozialstruktur. Und was man sehen kann in der DDR, dass in der frühen DDR gab es sehr viel Aufstiegsmobilität, dass Menschen aus einfachen und einfachsten Schichten in bessere gesellschaftliche Positionen kamen und dass ab Anfang der 80er Jahre das stagniert ist. Da ist die DDR zu einer sklerotischen Gesellschaft geworden. Und für die Generation, die dann danach kam, gab es keine sozialen Aufstiege mehr, fast keine sozialen Aufstiege. Das waren auch diejenigen, die 1989 auf die Straße gegangen sind, weil sie für sich auch keine Lebenszukunft mehr in der DDR gesehen haben. Vielleicht übersetzen erstmal.
Alors c'est évidemment une des questions centrales du livre qui tourne beaucoup autour de la structure sociale de la société est-allemande, qu'on peut décrire comme une société des petites gens dans lequel le prolétariat, le monde ouvrier, les travailleurs jouent un rôle central. Pour ce qui est des salaires, j'évoque la question du nivellement parce qu'il faut bien voir que les écarts de salaire étaient tout simplement beaucoup plus réduits qu'ils ne l'étaient à l'Ouest. Je vous donne un exemple. Ma mère était médecin et elle gagnait 950 marks de l'Est par mois. Je ne vais pas vous convertir ça en euros parce que ça ne donnerait pas grand-chose. Mais à titre de comparaison, un ouvrier spécialisé avec lequel je travaillais gagnait, lui, plus de 1000 marks Est. Autrement dit, d'une manière générale, on peut dire que les emplois universitaires, étant passés par des formations longues, pouvaient donner lieu à des rémunérations de l'ordre de 30 à 40% au-dessus de la moyenne à l'Est, alors que dans le même temps, en Allemagne de l'Ouest, ça n'aurait pas été 40% de plus, mais 2,5 fois le salaire moyen des travailleurs. Donc, c'est en ce sens qu'il y a un nivellement, dans ce sens que l'échelle des salaires était beaucoup plus resserrée. Et puis l'autre aspect, c'est que au début de la RDA, la société a beaucoup permis l'ascension sociale. Les premières années de la RDA ont permis à beaucoup de citoyens d'arriver à des positions qui leur permettaient de vraiment progresser sur l'échelle sociale. Et à partir des années 80, en fait, ce phénomène s'est arrêté, les places étaient prises, et à partir de là, la société est-allemande a commencé à se scléroser, et ce sont toutes ces personnes qui, à partir de 1980, n'ont plus eu accès à cette ascension sociale, qui sont finalement descendues dans la rue en 89.
Und dann sieht man im Prinzip dann nach dem Zusammenbruch und nach der Wiedervereinigung, dass diese Mobilitätsblockade der späten DDR eigentlich nicht aufgelöst wird, sondern dass durch Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit sich die Situation dramatisch verschlechtert. Bis heute sieht man bei den ostdeutschen Männern vor allen Dingen, dass sie schlechtere berufliche Positionen haben als ihre eigenen Eltern. Da geht es jetzt nicht ums Einkommen, sondern nur um die beruflichen Positionen und die Qualifikationen. Das heißt, bei den Frauen sieht es anders aus. Woran liegt das eigentlich? Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Es gab ja in der DDR so etwas wie eine Emanzipation von oben oder eine Emanzipation ohne Feminismus. Schon aufgrund sozusagen der Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften. Und wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt in den 80er Jahren in der DDR, was jetzt nicht die Spitzenelite, die war sozusagen überaltert und männlich, aber die Gruppe darunter, auch gesellschaftliche Führungspositionen, da war der Anteil von Frauen viel, viel größer als im Westen. 40% der ostdeutschen Richterinnen oder Richter waren weiblich. Im Westen waren das dann zu dem Zeitpunkt 10%. In der DDR-Volkskammer saßen, glaube ich, 40% Frauen. Jetzt bringt es der Bundestag gerade mal, ich glaube, auf knapp über 30%, also viel, viel weniger. Und wenn man sich dann eben anguckt, nach der Wiedervereinigung, sind die Frauen, die jungen Frauen vor allen Dingen sehr mobil gewesen. Also 60% der 2 Millionen, die vom Osten in den Westen gegangen sind, waren junge Frauen. Und jetzt kann man da noch viele soziologische Theorien anschließen. Also Frauen haben ja nicht nur einen Arbeitsmarkt, sondern möglicherweise auch einen Partnerschafts- oder Heiratsmarkt. Die ostdeutschen Männer, die in den Westen gegangen sind, haben die untersten Hierarchien der betrieblichen Organisationen erklimmt und auch sind selten sozusagen haben sich selten familiär im Westen gebunden. Viele sind wieder zurückgekommen. Das war bei den Frauen anders. Das ist ein sehr interessanter Tatbestand. Wenn man heute die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass die Aufstiege der Frauen viel, viel stärker sind als die der Männer. Und in den Top-Positionen, ich nenne nur mal eine Zahl, in den DAX-Unternehmen, die ostdeutschen DAX-Vorstände, davon sind 75% Frauen. 75% von den ostdeutschen DAX-Vorständen. Im Durchschnitt sind 10%. Man muss aber dazu sagen, das sind nur 4 Personen von 200 DAX-Vorständen. Und so sieht man, Angela Merkel ist natürlich das berühmteste Beispiel dafür, aber auch die einzige Vorstandsvorsitzende eines MDAX-Unternehmens ist eine Frau, eine Ostdeutsche, und kommt aus Lüttenklein und hat mir auch einen langen Brief geschrieben in Reaktion auf mein Buch.
Alors, après la réunification, ce blocage qui s'était installé dans la société est-allemande de la mobilité sur l'échelle sociale, en fait, il a perduré. Ce blocage s'est maintenu, notamment avec l'arrivée du chômage de masse, et les hommes d'Allemagne de l'Est ont été bien moins bien situés sur le marché du travail après l'ouverture que ne l'ont été leurs parents, par exemple. Ils n'ont pas réussi à atteindre le niveau professionnel, les postes, la qualification qu'avaient atteint leurs parents. Pour les femmes, la situation a été un petit peu différente. Alors, pourquoi ? Ça tient, pour une bonne partie, je pense, à l'organisation de la société est-allemande qui a imposé finalement une émancipation des femmes par le haut, sans avoir recours au féminisme. Tout simplement parce que la société est-allemande avait besoin de main-d'œuvre et elle avait donc besoin que les femmes travaillent. Bon, alors il faut bien voir que dans la société est-allemande, l'élite, la pointe de l'élite, elle était effectivement composée d'hommes âgés. Mais par contre, dans l'échelon intermédiaire, l'échelon suivant, il y avait beaucoup plus de femmes que dans les couches équivalentes de la société en Allemagne de l'Ouest. À titre d'exemple, 40% des juges étaient des femmes à l'Est, alors qu'elles n'étaient que 10% à l'Ouest. À la Chambre du peuple, il y avait 40% de députés femmes, alors qu'aujourd'hui, le Bundestag arrive à peine à 30% de députés femmes. Donc, c'était une réalité assez différente et une très nette différence entre l'Est et l'Ouest. Et puis, après la réunification, les femmes se sont aussi avérées beaucoup plus mobiles et beaucoup plus aptes à trouver leur place dans la société réunifiée. 60% sur les 2 millions d'Allemands de l'Est qui ont quitté l'Allemagne de l'Est pour aller à l'Ouest, 60% étaient des femmes. Alors, il y a tout un tas de théories de sociologie sur les explications de ce phénomène, mais il y en a une notamment qui semble s'imposer assez clairement, c'est que les femmes, en allant à l'Ouest, accéder non seulement au marché du travail, mais aussi au marché matrimonial. Et on constate que beaucoup plus de femmes ont réussi à évoluer dans l'échelle sociale que ce n'est le cas des hommes. Les hommes qui sont allés, les hommes, les Est-Allemands qui sont passés à l'Ouest, très souvent n'ont pas réussi à trouver un partenaire et sont restées dans les entreprises au bas de l'échelle sociale. Donc l'évolution des femmes a été beaucoup plus forte que celle des hommes. Vous avez évoqué les conseils d'administration des entreprises inscrites au DAX. Effectivement, à l'Est, 75% sont occupés par des femmes contre 10% à peine à l'Ouest. Alors, il faut quand même relativiser les choses parce que parfois, un conseil d'administration, c'est 4 personnes, donc ça fait encore pas énormément de monde. Bon, et puis l'exemple le plus flagrant quand même, c'est la chancelière Merkel qui, elle aussi, a été quand même à la tête de la Deutschland AG et qui était une femme de l'Est. Et puis, j'ai aussi été contacté après la parution du livre par une femme d'un conseil d'administration d'une grande entreprise qui, elle-même, venait justement de Lüttenklein.
Ich ergänze vielleicht noch mal einen Satz. Es tut mir leid, dass ich so lange spreche. Also wenn man jetzt mal auf Partnerschaftsmärkte schaut, dann weiß man, dass Frauen statusgleich oder statusaufwärts heiraten. Das ist ein relativ universelles Muster. Und in dem Sinne hat die deutsche Wiedervereinigung bedeutet sie letzten Endes, dass Ostdeutschland den weiblichen Part übernommen hat und Westdeutschland den männlichen. Das heißt, in den 90er Jahren war es so, dass 80% aller Beziehungen zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen aus einem westdeutschen Mann und einer ostdeutschen Frau bestanden. Die ostdeutschen Männer am untersten Ende der Hierarchie hatten auf diesen Partnerschaftsmärkten eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Und wir wissen heute, dass Ostdeutschland eine wahnsinnig stark maskulinisierte Gesellschaft ist, mit einem großen Männerüberschuss. In einigen Generationen ist das unglaublich stark durch die Abwanderung, dass man viele Single-Männer hat. Und es gibt Erklärungen, auch soziologische Erklärungen, die zum Beispiel sozusagen diese Form der Kameraderie, die Rudelbildung, auch männliches Imponiergehabe, aber natürlich auch sozusagen Rechtspopulismus durchaus auch auf diesen Männerüberschuss zurückführt.
Alors, un des aspects aussi qui est frappant ici, c'est que sur le marché matrimonial, on considère d'une manière générale, pas seulement dans le cas de l'Allemagne de l'Est, que les femmes se marient plutôt mieux au plan social. Donc elles progressent plutôt au plan social par leur union, alors que les hommes, c'est le contraire. Et on pourrait dire donc de ce point de vue-là que au moment de la réunification, l'Est de l'Allemagne a joué la partie féminine. Et dans les années 90, 80% des unions mixtes entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest étaient composées d'un homme de l'Ouest et d'une femme de l'Est. Et pour les hommes de l'Est, c'était beaucoup plus difficile, ils n'avaient pas les mêmes possibilités de créer une union mixte Est-Ouest. Et on le constate aujourd'hui, la société Est-Allemande est très fortement masculinisée. Il y a un excédent d'hommes, tout simplement parce que il est beaucoup plus difficile pour les hommes de partir et de trouver chaussures à leurs pieds. Et c'est ce qui explique aussi que la société est-allemande est de plus en plus marquée par le rôle de la camaraderie, de la virilité. Et évidemment, le populisme d'extrême droite en particulier joue sur ces phénomènes et en profite pour s'implanter plus fortement à l'Est.
Oui. Juste pour réagir sur cette idée d'émancipation sans féminisme, c'est bien sûr sans féminisme de la part du régime, c'est-à-dire c'est le régime qui ne faisait pas ça par féminisme mais par besoin de toutes les femmes sur le marché du travail. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une des personnes que j'avais interviewée pour mon livre sur la RDA après la RDA qui racontait une soirée passée à la télévision avec son mari où en fait c'était une émission historique qui parlait du rôle des femmes en Allemagne dans les années 60 où elles devaient demander l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte, pour travailler. Et en fait, elle était éberluée qu'il n'y ait pas un mot pour dire mais ça ne concernait qu'une partie des Allemandes. C'était pas la vie du tout de quelle elle avait vécu. Où elle avait considéré toujours comme une chose évidente qu'elle avait sa place sur le marché du travail et donc une autonomie financière et donc aussi des formes qui allaient jusqu'à, disait-elle, des formes d'autodétermination érotique, une plus grande liberté sexuelle aussi, etc. Donc elle mettait vraiment ça en tout premier plan dans son discours. Et juste pour revenir sur cette histoire de société nivelée vers le bas, donc vous disiez qu'en effet les salaires, en fait le ciseau, l'écart entre les revenus les plus hauts est bien sûr plus réduit, mais est-ce qu'on ne devrait pas dans ce cas-là dire plutôt que c'était une société nivelée vers le bas, c'est-à-dire avec moins de pauvreté, moins de gens vraiment dans des situations très précaires et aussi évidemment moins de gens qui gagnaient beaucoup beaucoup plus que d'autres, comme l'exemple que vous donniez de votre mère qui avait fait des études et pourtant avait un salaire. Mais en fait, quand on dit société nivelée vers le bas, je me demande si on n'imagine pas autre chose que ce qu'était la réalité, c'est-à-dire plutôt une société nivelée à un certain niveau, mais pas forcément tout en bas de l'échelle sociale. Mais je ne sais pas si c'est mes représentations de géométrie dans l'espace qui jouent là un rôle, mais je trouve que l'expression « nach unten hin nivelliert » implique un peu cette idée que non seulement le ciseau d'écart entre les revenus est moindre, mais surtout que ce serait tout tiré vers le bas. Et c'est là que je me dis que c'est pas vraiment. Il y avait aussi le fait que tout le monde avait, à part bien sûr les gens qui étaient définis parfois de façon totalement arbitraire comme asociales, qui pouvaient être dans des situations très difficiles. Mais à part ça, les gens avaient un emploi, c'est d'ailleurs le sens du terme de commo, de dictature que vous avez, je crois que c'est Günther Grass qui l'avait utilisé le premier. C'est aussi l'idée d'une Fürsorge dictature, c'est-à-dire qui prenait soin du fait que tout le monde avait le minimum pour vivre relativement bien. Donc voilà, c'est cette représentation d'une société nivelée vers le bas qui correspond pas selon moi à ce que vous avez décrit. Et je sais pas si je suis très claire. Est-ce qu'on dirait pas plutôt nivelé vers le milieu d'une certaine façon?
Als Günter Grass den Begriff der nivellierten, der Kommodendiktatur genutzt hat, gab es einen unglaublichen Skandal in den 90er Jahren. Damals konnte man das noch nicht sagen, weil da ein ganz anderer Blick auf die DDR war. Heute kann man das sagen und wahrscheinlich ist das eine sehr gute Beschreibung. Nivelliert, warum nutze ich dieses Wort? Weil ich sage, sozusagen aus sozialstruktureller Sicht ist die DDR-Gesellschaft im Prinzip nicht nach oben aufgeklappt gewesen. Also es gab keine bürgerliche Kultur, es gab kein wirkliches Bildungsbürgertum, es gab kleine Nischen davon, aber nicht wirklich. Es gab kein Wirtschaftsbürgertum, es gab auch sozusagen keine Einkommensspitzen. Die DDR ist auch eine Gesellschaft gewesen, also im Prinzip das einzig industrialisierte Land, dass von 1970 bis 1989 die Zahl der Studierenden drastisch reduziert hat. Also 1989 haben viel, viel weniger Menschen pro Jahrgang studiert als noch 1970. Das gab es nirgendwo in der Welt, nach meinen Recherchen jedenfalls. Und ich habe da, glaube ich, relativ gut recherchiert. Und in derselben Zeit gab es die Bildungsexpansion im Westen. Das war ja auch eine Form der Aufstiegsmobilität. Auch in Frankreich, in Italien, in allen Ländern sind die Universitäten ausgebaut worden. Und die DDR hat im Prinzip diese Möglichkeit des Zugangs zu höherer Bildung verringert, sodass viel mehr Menschen eben auch dann zur Arbeiterklasse dazugehörten und auch dazugehören sollten. Und natürlich, es gab eine Basis und eine allgemeine Versorgung, die war gut und jeder konnte auch ein vernünftiges Leben leben, aber es fehlten die ganzen Stockwerke im Gesellschaftshaus und deswegen habe ich jetzt diese Begrifflichkeit geprägt, aber es war nicht so, dass alle Leute sozusagen in eine Armut hineingeraten sind.
Pardon.
Lorsque Günter Grass avait utilisé cette expression de dictature commode, ça avait fait scandale à l'époque parce que tout simplement, on n'était pas prêt à voir encore la RDA de cette façon-là. Mais je pense qu'en fait, c'est une assez bonne description de la réalité. Alors, pourquoi moi, j'ai choisi de dire que cette société, elle était nivelée par le bas? Tout simplement parce qu'en fait, elle n'était surtout pas ouverte vers le haut. C'est surtout ça la différence. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture à la culture, à l'éducation bourgeoise. Il n'y avait pas une bourgeoisie économique qu'on laissait s'installer et prospérer. Alors, effectivement, les revenus étaient plutôt homogènes, mais c'est quand même assez caractéristique, et à ma connaissance, c'est le seul pays pour lequel ça vaut. La RDA a été, je crois, le seul pays qui, entre 1970 et 1989, a réduit le nombre de ses étudiants. Donc, il y avait une volonté délibérée de ne pas ouvrir à l'éducation supérieure et à la culture, mais de faire en sorte que la société reste composée d'ouvriers. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus et je crois que vraiment la RDA est de ce point de vue-là un cas tout à fait unique, alors que à l'Ouest, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, on développait beaucoup les capacités universitaires, on misait sur l'éducation. La RDA, elle, voulait avant tout que ses citoyens soient des travailleurs. Alors, bien sûr, les besoins de base des citoyens étaient couverts, ils étaient assurés, ils ne manquaient de rien d'élémentaire. Mais par contre, dans la maison RDA, tout ce qui manquait, c'était les étages supérieurs. Il n'y avait pas de possibilité d'escalader les échelons pour passer à une société plus bourgeoise. Voilà.
Oui, et d'ailleurs, vous le dites, c'est d'une certaine façon un peu paradoxal, parce que vous parlez d'absence de culture bourgeoise, mais vous dites aussi qu'on trouvait en RDA, sans problème, dans les bibliothèques d'une famille ouvrière, des ouvrages de Anna Segers, de Christa Wolf, etc., que c'était habituel d'aller à la bibliothèque, d'aller au théâtre, etc., et que tout ça a disparu après la 22. Donc, il y a ici une forme de paradoxe qui a été regretté par beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs, est-allemand, vous l'écrivez dans votre livre. Voilà, donc c'était intéressant. Je voulais aussi parler avec vous de cette justement de la vie dans ce Plattenbau. Alors, vous dites que personne ne disait Plattenbau en RDA, ça c'est une toute petite remarque. Moi, j'ai des amis qui ont grandi en RDA qui me disaient qu'eux le disaient. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est régional, je ne sais pas qu'eux utilisaient le mot, mais disons Plattenbau pour l'instant. Et moi, dans les entretiens que j'ai fait pour mon livre, il y a notamment celui avec quelqu'un, donc c'est des pseudonymes, hein, qui s'appelait Thomas, qui a grandi aussi dans un Plattenbau et qui nous expliquait qu'il y avait une grande mixité sociale, en effet, qui est celle que vous décrivez aussi à Luttenklein dans votre immeuble, avec des gens, des familles avec des métiers ouvriers, des métiers intellectuels, qui vivaient ensemble. Mais il ajoutait que selon lui, ça n'avait pas pour autant permis de venir à bout de ce que Bourdieu appellerait la reproduction. C'est-à-dire que finalement, quand il réfléchit aux amis avec qui il jouait, etc., c'était des enfants de médecins, comme ses parents à lui, des enfants d'avocats, etc., et que finalement, il fallait pas idéaliser non plus ces formes de mixité sociale qui certes étaient facilitées par la vie dans le Plattenbau, mais qui n'auraient pas, selon lui, en tout cas, éliminé ces phénomènes de reproduction sociale malgré tout. Donc je voulais avoir votre avis sur cette question-là. Est-ce que pour vous, le Plattenbau est vraiment une sorte de panacée contre les phénomènes d'exclusion, enfin de partage sociaux de l'espace?
Ja, im Prinzip teile ich die Beobachtung auch ein Stück weit. Natürlich, es gab viel mehr Durchmischung und es gab auch keine Gentrifizierung oder räumliche Segregation, wie wir das heute in den Großstädten in fast allen Ländern dieser Welt beobachten können. Sondern in diesen Plattenbauten wurden Leute eben versammelt aus unterschiedlichen Schichten. Sie waren frei durcheinander gewürfelt. Also bei uns arbeitete sozusagen der Werftdirektor, lebte der Werftdirektor oder auch die Reinemacherfrau, wie wir damals gesagt haben. Und das spielte sich alles zusammen. Und es hieß nicht automatisch, dass man mit den Leuten ganz eng war und enge Freundschaften oder Netzwerke gepflegt hat, sondern es gab natürlich auch subtile Formen der Reproduktion. oder der Aufrechterhaltung dieser, hier darf ich das ja sagen, mit Bourdieu feinen Unterschiede. Das sind Dinge, die haben trotzdem stattgefunden. Vielleicht sind sie manchmal sogar verstärkt worden, weil es natürlich sonst sehr viele Zumutungen der sozialen auch Durchmischung gegeben hat, sodass man dann auch wieder Formen gefunden hat oder gesucht hat, um dem zu entweichen. Aber ich würde dem im Prinzip zustimmen. Es wäre auch falsch, sozusagen jetzt diese Plattenbaugebiete als heile Welt des sozialen Miteinanders und des friedvollen sich miteinander ins Benehmen setzens ansehen. So war es auch nicht, sondern es gab dort natürlich auch Lebensstilkonflikte, aber viel, viel weniger ausgeprägt und viel, viel weniger in so einer räumlichen Ausdifferenzierung. Das heißt, man konnte sich nicht über den Weg gehen. Man hat auch in kultureller Hinsicht natürlich einen sehr ähnlichen Lebensstil gepflegt, weil die Konsummöglichkeiten beschränkt waren, überhaupt die Distinktionsformen nicht gegeben waren. Man konnte nur dieselben Bücher lesen, man konnte nur ins selbe Theater gehen, man konnte sich auch nur dieselbe Kleidung kaufen. Das einzige Distinktionsmittel waren Westpakete oder Jeansklamotten oder Konsumprodukte aus dem Westen. Mit denen konnte man natürlich sehr viel Prestige gewinnen.
Je partage tout à fait cette observation. Alors effectivement, il n'y avait pas du tout de gentrification nouvelles zones de Plattenbau. La gentrification qu'on constate aujourd'hui absolument partout dans le monde. Et il faut bien comprendre que ces Plattenbau, tout le monde s'y retrouvait. On pouvait cohabiter avec le directeur des chantiers navals et l'appartement d'à côté, c'était une femme de ménage. Ça ne veut pas dire pour autant forcément qu'il y avait entre les deux des relations sociales très étroites. Il y avait toujours la possibilité de mettre en place des formes plus subtiles de reproduction, pour reprendre le terme, ces petites nuances, ces petites différences, pour rester dans l'esprit de Bourdieu. Mais c'est vrai que sinon, la société imposait beaucoup de mélange social entre les différentes catégories. Et donc, il fallait trouver quelque part ces petites différences. Ça ne veut pas dire pour autant que le Plattenbau, c'était un endroit idéal, une terre de bonheur absolu et de cohésion sociale parfaite. Il y avait évidemment des conflits, des styles de vie différents, des points sur lesquels on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça ne s'exprimait pas par des délimitations géographiques. Parce que finalement, tout le monde était plus ou moins contraint à une vie culturelle assez similaire. On lisait les mêmes livres, on allait dans les mêmes théâtres, on portait les mêmes vêtements. Et finalement, les seules distinctions qui pouvaient opérer, elles provenaient des colis qu'on recevait de l'Ouest, des jeans qu'on allait pouvoir porter et qui d'un seul coup devenaient des objets de prestige à travers lesquels on pouvait effectivement se distinguer.
Et d'ailleurs, c'est aussi un peu perçu comme injuste quand on voit à quel point la société ouest allemande et les revenus sont de plus en plus des revenus du capital et non pas du travail, puisqu'en RDA, personne n'aurait acheté son logement, par exemple, personne n'avait de patrimoine, et donc il y a une forme d'injustice. Alors qu'on raconte cette société comme une société de mérite individuel, c'était très injuste dès le départ. D'une certaine façon, vous le développez aussi un peu à un moment, cette idée. J'ai deux remarques avant de donner la parole au public. Je voudrais citer, la première, c'est sur une phrase que vous écrivez, page 114. Je vous cite. « Ob das Ende der DDR das Ergebnis einer Revolution war oder ob es sich um einen schlichten Zusammenbruch handelte, ist umstritten. Und es gibt gute Argumente für beide Sichtweisen. Donc, est-ce que la RDA, la fin, c'était une révolution, ou est-ce que ça c'est un Zusammenbruch, comme un jeu de cartes qui se serait écroulé? Et donc, il y a des arguments, dites-vous, pour les deux aspects. Et moi, je trouve que le mot Zusammenbruch est très problématique parce que ça sous-entend que, je trouve que ça met de côté le courage qu'il a fallu quelques mois après Tiananmen pour arracher la chute du mur, enfin, pour faire des manifestations, pour faire en sorte d'exprimer collectivement un désaccord qui a mené à la chute du mur de Berlin. Et c'était vraiment, quand on se replace dans l'époque, quelques mois après Tiananmen, extrêmement courageux. Et je trouve que le mot Zusammenbruch ne rend pas compte de cette énergie collective, comme si les choses... Et c'est vrai que la RDA était à bout, sûrement, donc ce que veut dire le mot Zusammenbruch, mais pour moi, il y a plus d'arguments pour ne pas dire Zusammenbruch, personnellement. Ça, c'était la première remarque. Peut-être je vous laisse répondre.
Ja, die eine Perspektive auf die Revolution ist natürlich sozusagen die Leistung der zentralen Akteure zu würdigen. Die andere ist für mich eher eine soziologische Betrachtung. Ich sehe die DDR schon als erschöpfte und eigentlich nicht dauerhaft lebensfähige Gesellschaft. Und sie war zum Ende eben auch ausgelaugt und sie ist so zusammengebrochen wie viele andere Gesellschaften auch, aufgrund von bestimmten Systemdefekten, die man eine Zeit lang kaschieren und auch vielleicht politisch managen konnte, aber zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben nicht mehr. Aber es kam beides zusammen. Ich glaube, es wäre auch falsch, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Es hängt immer sehr stark von der Perspektive ab, aus der man das betrachtet. Aber natürlich, der Herbst 89 ist in Erinnerung der allermeisten Erstdeutschen ein fantastischer Moment, ein euphorischer Moment, auch ein Moment sozusagen einer ungeheuren subjektiven Selbstermächtigung, wo Dinge, die als unverrückbar und als sozusagen ja, dauerhaft stabil galten, über Nacht ins Wanken geraten. Das ist sozusagen in der Erinnerung, auch sozusagen in meiner persönlichen Gefühlswelt, natürlich ein unglaublich guter Zeitpunkt gewesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Leute auch in ihren Interviews wahrscheinlich immer reflektieren werden. Dieses Moment, wo die alte Macht pulverisiert und die neue Macht noch nicht da war. Also dieses Jahr, dieses lange Jahr der Anarchie, wie man das manchmal nennt, zwischen dem Herbst 89 und der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Da hat sich unglaublich viel abgespielt. Das war eine Beschleunigung, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann. Aber es war auch so, dass ich bei allen Ängsten und Unsicherheiten, die es gab, auch viele Leute, also eigentlich eine ganze Gesellschaft, vollständig neu erfunden hat. Das war für mich einfach eine unglaublich spannende Zwischenphase, über die es noch viel zu wenig gibt.
Alors, la perspective portée sur les choses selon lesquelles ce serait une révolution qui se serait déroulée, ça renvoie bien sûr à la performance des principaux acteurs qui ont porté ce renversement. Et l'autre façon de voir les choses, c'est porter un regard plus de sociologue et de considérer que la société est-allemande était une société épuisée dans laquelle il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas et qu'elle a donc finit par s'effondrer comme se sont effondrées d'autres sociétés à cause des faiblesses qu'on avait pu dissimuler pendant un certain temps, mais qui ont fini par faire craquer le système. Donc c'est vraiment une question de perspective. Mais ce qui est sûr, c'est que la période qui a démarré avec l'automne 89, ça a été vraiment une période de grande euphorie. Le peuple est-allemand s'est saisi du pouvoir, a vraiment pris le pouvoir, et c'était très euphorisant de voir que des choses qui semblaient bien installées, très stables, on a pu du jour au lendemain les renverser. Et je crois que c'est quelque chose qui caractérise aussi tous les souvenirs personnels. Ça vaut pour moi aussi. Cette époque, elle a été tout à fait formidable. D'un seul coup, à un instant donné, on voit cet ancien pouvoir qui est pulvérisé, qui s'effondre, qui tombe en miettes et qui n'est pas encore remplacé par le nouveau système qui va se mettre en place. C'est toute la période un peu anarchique entre l'automne 89 et la réunification du 3 octobre 90. Ça a été une période assez formidable dans le souvenir de beaucoup de monde qui a connu des accélérations, des fulgurances et des innovations assez intéressantes dans la tête de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont finalement commencé à réinventer un système.
Et ma toute dernière remarque porte sur quelque chose que vous dites, page 175, qu'il serait inutile de poser des was wäre wenn Fragen, donc des questions, qu'est-ce qui se serait passé si. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'il y a récemment deux historiens français qui ont publié un livre il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Quentin Duluermoz et Pierre Singaravelu. Un livre justement sur l'analyse des futurs qui ne sont pas advenus. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si le nez de Cléopâtre avait été plus long ou si Napoléon avait gagné Waterloo? Enfin, mais là, ils le font à partir d'analyses en disant que justement, par exemple, les futurs non advenus de la Révolution française ont joué un rôle en 1830, ont joué un rôle en 1848. Et je crois qu'on pourrait dire la même chose pour la Révolution pacifique de 1989. Les futurs non advenus, la façon dont on aurait pu faire autrement, joue un rôle encore, je crois, aujourd'hui. En tout cas, moi, je l'ai constaté beaucoup dans les récits des gens que j'ai interviewés. Ces futurs non advenus, cette réflexion sur, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si on avait rédigé une constitution ensemble, si on avait dû réfléchir à la législation sur le droit de la nationalité, sur l'avortement, etc. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et je crois que les Was wäre wenn Fragen ont au contraire un grand rôle à jouer à propos de l'analyse de la révolution de 1989. Mais je voudrais savoir votre avis.
Wahrscheinlich haben Sie recht, dass man solche Fragen doch stellen kann. Aber das ist so ein bisschen Versuch, so eine Ostalgie und auch so eine ostdeutsche Jammerei, die es ja auch gibt, was entgegenzusetzen. Aber natürlich habe ich auch in dem Buch sehr viel Kritik am Prozess der Wiedervereinigung und an dem Transformationsgeschehen, zum Teil auch fundamentale Kritik, weil ich glaube, da sind auch viele politisch-handwerkliche Fehler gemacht worden. Zum Beispiel glaube ich, dass die Wiedervereinigung letzten Endes eine Unternutzung des aus der Revolution 1989 hervorgegangenen demokratischen oder demokratisierenden Potenzials und gleichzeitig eine Übernutzung des nationalistischen Potenzials politischer Mobilisierung darstellt. Und die Folgen versuche ich ja zu beschreiben, die das bis heute hat. Starker Rechtspopulismus, starke Rolle der AfD, in Ostdeutschland viele Unwuchten und auch Unzufriedenheiten, weil die Ostdeutschen eben auch als Akteure nicht ernst genommen worden sind. Und ich habe hin und wieder mal Besuche von koreanischen Journalistinnen und Journalisten gehabt, die mich zum Wiedervereinigungsprozess natürlich mit Blick auf eine mögliche eigene Wiedervereinigung befragen. Und die sagen immer, was kann man eigentlich aus der deutschen Wiedervereinigung lernen? Und wenn man so an diese Sache rangeht, dann muss ich immer sagen, eine ganze Menge. Ich will das jetzt hier nicht ausführen, aber das ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil man daraus lernen kann, wie man vielleicht eine Vereinigung oder auch eine Transformation insgesamt, wir haben ja auch noch digitale und ökologische Transformation zu uns, wie man sie besser machen kann. Und man kann sie besser machen, zum Beispiel, indem man den Leuten selbst das Gefühl gibt, handelnde Subjekte dieses Prozesses zu sein und sich damit zu identifizieren. Dann sind auch Leute erstmal bereit, Zumutungen zu ertragen. Das ist viel zu wenig gemacht worden.
Vous avez sans doute raison. Et finalement, ça, c'est une façon de se confronter aussi au phénomène de l'ostalgie. Alors, on peut évidemment exprimer beaucoup de critiques, et je le fais aussi dans mon livre, sur la manière dont s'est organisée la réunification et sur la manière dont s'est réalisée cette transition. On voit que beaucoup d'erreurs ont été commises, beaucoup d'erreurs pratiques dans l'artisanat politique de la mise en œuvre de cette réunification. Par exemple, dans cette réunification, on a totalement sous-utilisé le potentiel démocratique des Allemands de l'Est, alors qu'en revanche, on a surutilisé la fibre nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des explications qui fait qu'aujourd'hui, justement, l'AfD peut à ce point s'installer et s'implanter en RDA. Les Allemands de l'Est n'ont pas été pris au sérieux comme de véritables acteurs de cette transition. Et je suis souvent contacté par des journalistes ou des auteurs coréens qui évidemment réfléchissent à l'idée d'une réunification et qui me demandent quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la réunification allemande. Et je crois qu'en réalité, il y a énormément d'enseignements à en tirer. On pourrait se demander, on doit se demander comment organiser mieux la transformation, parce que les transformations, il y en a encore beaucoup à faire. On peut penser à la transformation numérique, à la transformation écologique. Et je crois qu'un point sur lequel on aurait pu faire beaucoup mieux, c'est justement de faire en sorte que les Allemands de l'Est, on leur ait donné le sentiment qu'ils étaient des acteurs de cette transformation. Parce que si on fait en sorte que les citoyens soient acteurs de la transformation, ils ne la subissent pas et ils sont beaucoup plus prêts à s'identifier à cette transformation et à accepter les efforts qu'elle implique.
Oui. Ils n'ont pas pu mettre grand-chose dans la corbeille de mariage, les Allemands de l'Est. C'est l'heure de donner la parole au public. Je ne sais pas s'il y a un micro qui doit circuler ou est-ce que... Non, voilà. Donc, juste lever la main si quelqu'un a une question à poser.
Oui. Ich hätte gerne erstmal ganz vielen Dank, weil ich komme aus Thüringen und ich kann ganz sehr nachfühlen, was Sie so beschreiben. Und es ist also sehr schön, um das dann auch irgendwie reflektiert zu sehen. Auch die Rolle der Frau und so weiter. Also, es ist schon interessant. Aber Sie kamen ja auch darauf zurück, extrem rechts in Ostdeutschland, in der AfD und so weiter. Wir haben auch ein paar Beispiele gegeben, durch was es kommt. Aber wie könnte man das jetzt ändern? Also, das, was, die Frauen müssten zurückziehen? Oder ich meine, es musste attraktiver werden, um nach Ostdeutschland zu gehen. Also, das ist so die Frage, womit ich ein bisschen sitze. Und dann möchte ich mal hören, was Sie da für einen Vorschlag machen.
Alors, tout d'abord, merci beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre livre. Moi, je viens de Thuringe et je comprends parfaitement ce que vous nous avez décrit dans ce livre, notamment sur le rôle de la femme. Et puis, vous avez évoqué l'un et l'autre, l'une et l'autre, la place que prend l'extrême droite et le rôle de l'AFD. Et on peut se demander d'où ça vient, mais aussi on peut se demander ce qu'on peut faire pour lutter contre. Et donc, est-ce que finalement, la manière de s'en sortir, c'est de faire en sorte que les femmes retournent à l'Est? Est-ce que ça pourrait contribuer et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver?
Ja, natürlich kann man jetzt nicht für die ostdeutschen alleinstehenden Männer lauter Frauen besorgen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn man sozusagen die Ursachenforschung ernst nimmt, dann ist es so, dass 1989, 90 ja eine ganze Gesellschaft zusammengebrochen ist und der gesamte vorpolitische Raum, wie man das vielleicht nennen kann, also da, wo die Massenorganisationen und die Partei und die Freie Deutsche Jugend aktiv waren und auch die Betriebe spielten eine große Rolle, das ist alles weggekommen. Und es gab sozusagen keine entwickelte Zivilgesellschaft und in diese Räume sind rechtspopulistische Akteure hineingegangen. Ganz viele, die aus dem Westen kamen, wo sie gar nicht die Möglichkeiten hatten, so stark einzuwurzeln und in vielen Mittelstädten und auch in den ländlichen Gemeinden in Thüringen, Sachsen, aber auch in Vorpommern sind diese Leute heute Teil der Zivilgesellschaft. Die sind Mitglieder der Handwerkskammer, der Freiwilligen Feuerwehr, beim Kegelverein und die haben dort sozusagen eine lokale Funktion übernommen. Deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, sie wieder wegzubekommen, weil sie einfach so stark eingewurzelt haben und diesen vorpolitischen Raum, der leer geblieben ist, und den die Parteien und auch die sozusagen Organisationen, auch die Gewerkschaften, die Kirchen, die aus dem Westen rüberkamen, sich gar nicht an die lokalen Gegebenheiten anpassen wollten, sondern einfach nur so eine Flächenextension gemacht haben, die haben diese Räume gelassen. Das heißt, man muss wahrscheinlich kontinuierlich versuchen, diese Räume wieder zu erobern. Und das ist sehr, sehr kleinteilig. Es gibt keinen Masterplan oder eine Lösung für dieses Problem, sondern es ist wahrscheinlich ein tagtäglicher Kampf um und für die Demokratie.
Alors évidemment, imaginez qu'on va pouvoir importer en grande quantité des femmes pour retrouver des femmes à tous ces célibataires est-allemands. Ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce que fait apparaître la recherche sur toute cette période de 89-90, c'est que ça a été vraiment l'effondrement complet de toute une société. Les organisations politiques, bien sûr, mais aussi tout ce qui précède le politique, les partis, les entreprises, les fédérations de la jeunesse, tout ça s'est effondré très rapidement et il n'est pas resté en place de société civile. Et donc, dans ce vide qu'a créé l'effondrement de la RDA, se sont engouffrés tout un tas d'acteurs, notamment de l'extrême droite, venus d'Allemagne de l'Ouest, où ils n'avaient pas réussi à prendre pied. Mais là, ils ont pu s'engouffrer dans ce vide, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Thuringe, en Saxe, en Poméranie, on les retrouve dans les chambres d'artisanat, les chambres de l'industrie, dans les associations de pompiers volontaires, dans les clubs. Ils ont finalement assumé cette fonction sociale qui était restée en jachère. Ils ont pris pied et toutes les organisations du pré-politique, que ce soit les partis, les syndicats, les églises, qui sont venues de l'Ouest pour s'installer à l'Est, finalement n'ont pas su assumer ce rôle parce qu'ils sont venus à l'Est pour étendre leur emprise et élargir leur territoire de l'Ouest à l'Est et pas vraiment pour s'adapter à la réalité et à la donne sur place. Donc, ce qu'a su faire l'extrême droite, c'est justement combler ce vide. Et donc, la solution, ça passe vraiment par une reconquête de cette société civile sur le terrain, mais c'est un travail de petites mains à faire sur le terrain, pas à pas, à petite échelle. C'est un combat quotidien qu'il va falloir mener pour reconquérir cette place dans la société civile et pour reconquérir cette part de la démocratie.
Je me permets d'ajouter une chose. Je pense que c'est d'ailleurs pas un hasard si l'AFD a comblé ce vide, comme vous dites, en utilisant des slogans comme « Der Osten steht auf », Vollendet die Wende, en présentant, c'était les seuls qui présentaient les Allemands de l'Est comme l'avant-garde politique, en reprenant même le slogan Wir sind das Volk. Donc c'est, je pense, vraiment très important de ne pas laisser l'AFD être la seule à avoir ce discours sur les formes de. Enfin, ce discours positif sur les Allemands de l'Est comme avant-garde politique, et de montrer qu'eux aussi ont une capacité d'action qu'on leur a refusée longtemps. Je pense que ça découle précisément de ça. Enfin, là, c'est moins les slogans actuels, mais ils ont eu pendant toute une période ce genre de slogan sur vraiment « Der Osten steht auf », en s'adressant vraiment aux Allemands de l'Est.
Es war ja 20 Jahre so, dass im Prinzip so eine ostdeutsche Identität als Vereinigungsproblem oder Bremse angesehen wurde. Also je schneller man die abstreift, umso mehr tut man eigentlich für die Vereinigung. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil auch natürlich auch die Rechtspopulisten diese Identität versucht haben zu kapitalisieren und politisch auszunutzen. Ich habe eine sehr gelassene Sichtweise auf die ostdeutsche Identität. Ich glaube, sie kann auch eine Form von regionaler Identität werden. Auch in den ganzen politischen Pamphleten hat man überhaupt nie über Ostdeutschland sprechen wollen. Das ist sozusagen ausgemerzt worden. Und das kommt jetzt ein bisschen wieder. Auch bei den jüngeren Generationen gibt es eine starke Identität. 40% der unter 30-Jährigen sagen, sie fühlen sich zunächst mal als Ostdeutsch. Das ist im Prinzip so der Anteil so hoch wie die Leute, die sich zunächst mal als Bayern fühlen. Und wenn sich das normalisieren könnte und man dann sozusagen das auch den Rechtspopulisten wieder aus der Hand nehmen würde, das wäre natürlich ganz in meinem Sinne. Aber ich glaube, man ist damit falsch umgegangen. Man wollte keine Politik der Mentalitäten. Aber man kann eben auch das Kulturelle nicht einfach so wegdrücken, sondern das hat eben eine starke Persistenz und auch ein Eigenleben. Und deswegen ist es nach wie vor da und bricht nicht mit einem System zusammen. Und das war, glaube ich, auch politisch ein großer Fehler, dass man geglaubt hat, also das bleibt jetzt alles zurück und alles, was jetzt DDR kontaminiert ist, müsse verschwinden und gar nicht gesehen hat, dass sozusagen es eben auch eine starke kulturelle Reproduktion von Dingen gibt, die aus der Vergangenheit kommen oder jetzt auch neu reinterpretiert werden. Das ist ja nicht immer nur DDR-Bezug, sondern es gibt auch neue Verständnisweisen.
En fait, pendant 20 ans, l'identité est-allemande, elle a été considérée comme un obstacle à la réunification. Et on se disait un petit peu qu'il fallait s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir réussir la réunification. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Évidemment, l'extrême droite populiste a essayé d'exploiter cette identification. Mais moi, j'ai un rapport plus détendu à l'identité est-allemande. Je crois qu'on peut aussi désormais la voir comme une identité régionale en quelque sorte. Pendant longtemps, on n'a pas voulu parce qu'on y voyait un risque. Mais aujourd'hui, près de la moitié des gens de plus de 30 ans venant de la main de l'Est considèrent qu'ils sont est-allemands et ça ne pose pas de problème en soi. Donc, si on pouvait reprendre cette identification à l'extrême droite, évidemment, j'en serais ravi, ce serait une bonne chose. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, on a négligé le fait que ces mentalités étaient persistantes et qu'elles survivaient à l'effondrement du système. Ça a été une des grandes erreurs politiques, je crois, que d'avoir sous-estimé cette capacité de la culture est-allemande à se reproduire, à s'entretenir. Il y a la part de reproduction culturelle qui vient du passé, et puis aussi il y a la part de l'identité est-allemande qui a été réinterprétée dans l'intervalle. Et ça, c'est encore autre chose.
On a parlé d'une société RDA peu hiérarchisée, et où l'ascension sociale est plus difficile. Mais est-ce que par la politique, c'est-à-dire par l'appartenance au parti, il n'y avait pas cette possibilité de carrière, justement, et est-ce que ça, c'était pas un clivage entre ceux qui étaient ouest et l'Est?
Ja, es gab sozusagen eine Positionsvergabe, die war relativ unabhängig von Talent oder Leistungsfähigkeit, sondern bezog sich eben auf politische Loyalitäten oder Mitmachbereitschaft dann in der Partei. Das ist für viele Ostdeutsche eben auch unglaublich frustrierend gewesen, dass sie gesehen haben, sie kommen nicht voran und andere Leute, die fahren dann auf dem Parteiticket und kriegen irgendwie tolle Positionen. Aber es gab ja nicht so, also es gab 2 Millionen, glaube ich, Parteimitglieder. Damals lebten dann 17 Millionen in der DDR. Ich weiß, die Anzahl der Erwachsenen war wahrscheinlich 11 oder 12 Millionen. Also für die Leute traf das sicherlich zu. Die konnten bessere Positionen bekommen, aber für die große Breite der Bevölkerung eben nicht. Also und das ist vielleicht auch noch eine Erfahrung gewesen, die DDR ist eben auch genau aus dieser Frustration, weil man selber sich nicht verwirklichen konnte, untergegangen. Und dann mit der Wiedervereinigung sind so viele Probleme, auch soziale Probleme entstanden, dass viele Leute gerade der mittleren Generation, jetzt nicht meine Generation, ich war 21, aber die Leute, die 10 Jahre älter waren, die konnten dann nicht nochmal neu beginnen, sondern die hatten familiäre Verpflichtungen, die waren vielleicht regional gebunden. Für die war das unglaublich schwer und da ist auch unglaublich viel Frust entstanden, weil die Sachen, die sie sich eigentlich von der Wiedervereinigung versprochen haben, dann nicht eingetreten sind. Ich muss noch mal sagen, die beiden Übersetzer, fantastisch, also ist unglaublich.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu, bien sûr, dans le système RDA, un mode de distribution des postes qui ne se faisait pas selon le talent, mais en particulier pour les postes de responsabilité, en fonction de la loyauté et de l'aptitude à suivre la ligne du parti. Donc ça, c'était évidemment un phénomène extrêmement frustrant pour beaucoup de monde. Si on était proche du parti, si on était sur la ligne du parti, on pouvait récupérer des postes. Mais bon, en même temps, le Parti Socialiste Unifié regroupait environ 2 millions de membres sur quelque 17 millions d'Est-Allemands, dont environ 11 millions d'adultes à peu près à l'époque. Donc c'est vrai pour cela que pour ces 2 millions de personnes, ça a peut-être été un facteur de promotion d'être proche du parti. Mais ça n'a pas valu pour autant pour tout le monde. Et puis, lorsque le système est-allemand s'est effondré, certains ont cru en la promesse de la réunification qui allait permettre justement de retrouver une ascension en fonction du talent. Et là, la frustration a été grande parce que ça vaut pas tellement pour ma génération, moi j'avais 20 ans à l'époque, mais pour les trentenaires qui, eux, pouvaient espérer et attendre de la réunification la possibilité de grimper à nouveau les échelons sociaux. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ça a suscité beaucoup de frustration. Beaucoup d'Est-Allemands de cette génération ont eu le sentiment que la réunification n'avait pas tenu ses promesses.
Et aussi parce que certaines positions importantes dans la société ont été occupées par des Allemands de l'Ouest, parfois aussi sans talent et dont la carrière était bloquée à l'Ouest, mais qui ont connu une ascension bien meilleure en partant à l'Est, justement. Et le talent, là aussi, ne jouait pas forcément un grand rôle.
Ja, es sind also ich spreche von einer Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft durch westdeutsche Transfereliten, ungefähr 30.000. Wir wissen nicht genau, aber es sind wahrscheinlich 80 oder 90% Männer gewesen, die dann als Professoren, als Sparkassendirektoren, als Gerichtspräsidenten in den Osten gekommen waren. Und es war natürlich auch unglaublich einfach, als die Transformation dann nicht so erfolgreich war und die Investoren ausblieben und es wirtschaftlich nicht voranging, sozusagen alle Schuld auf diese Gruppe zu attribuieren, weil die Westdeutschen eben auch verantwortlich waren. Und ich spreche eigentlich von so einer dreifach exogenen Transformation. Das Geld kam aus dem Westen, die Institutionen, die übernommen werden mussten, und die Transfereliten. Also es hat die Ostdeutschen schon sehr stark zu Objekten gemacht und eigentlich verohnmächtigt.
Alors, je parle dans le livre d'une surstratification, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme vous le disiez, on a ajouté au-dessus de la classe moyenne est-allemande une élite, environ 30 000 personnes, qui sont venues exclusivement d'Allemagne de l'Ouest, et qui d'ailleurs étaient composées à 80 ou 90% d'hommes, qui ont occupé les postes de professeurs d'université, de juges, de directeurs de caisses d'épargne, et qui ont été chargés d'organiser toute cette transformation de la société est-allemande. Et du coup, ça avait un autre effet, c'est que lorsque cette transformation n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'attendait, lorsque les investissements n'ont pas suivi les espoirs, eh bien, on avait trouvé le coupable. On pouvait du coup reprocher à ces personnes-là de ne pas avoir réussi la transformation. Je parle d'une transformation exogène triple, parce qu'en fait, dans le mouvement d'Est en Ouest, on a fait venir l'argent, on a fait venir les institutions et on a fait venir cette élite chargée de mettre en œuvre la transformation. Donc c'est cette triple transformation qui fait que les Allemands de l'Est ont été contraints au rôle de sujet. Ils ont été assujettis à cette transformation, mais n'ont fait que la subir. Ils n'ont pas pu en être des acteurs impliqués.
Il est l'heure, mais peut-être qu'on a le temps pour une toute dernière question.
Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, de l'effondrement du régime, je voudrais savoir quel est le ressenti de monsieur sur l'influence de ce qui s'est passé dans les autres pays de l'Est. Parce qu'on ne peut pas isoler, me semble-t-il, la fin du régime communiste en RDA, de tout ce qui se passait dans cette année 89.
Ja, ich sehe das auch im Kontext einer gesamten mittel- und osteuropäischen Transformation. Beginnt mit Ereignissen in den baltischen Staaten. Da gab es ja Menschenketten im Sommer mit einer sozusagen zumindest in Anfängen schon ein bisschen demokratischen Wahl zum Sejm in Polen mit dem paneuropäischen Frühstück an der ungarisch-österreichischen Grenze. Also überall gab es schon Formen von Liberalisierung und da ist die DDR jetzt keine isolierte Gesellschaft gewesen. Aus meiner Erinnerung haben wir das nicht alles so bewusst gewusst, aber es gab natürlich auch Westfernsehen und man war gleichzeitig auch schon sehr, sehr gut informiert. Sie haben das vorhin erwähnt, den Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Das war natürlich auch etwas, was man sehr genau beobachtet hat, dass da die Panzer aufgerollt sind. Ich war im Herbst 1989 selber Soldat bei der Nationalen Volksarmee und kann mich noch sehr gut an am 7. Oktober war der Jahrestag der DDR, zum 40. Jahrestag, erinnern, dass wir wirklich mit munitionierter Kalaschnikow in unseren Zimmern da gesessen haben und die LKW schon auf den Marschierplatz aufgefahren sind und wo natürlich die Gewissensfrage sich jeder irgendwie stellen musste, was passiert eigentlich, wenn der Befehl des Ausrückens kommt? Und da haben wir sehr viel drüber diskutiert. Ja, und kann man froh sein, dass es nicht so gekommen ist.
Oui, alors effectivement, cette transformation, elle ne s'est pas faite qu'en RDA, elle s'inscrit dans le contexte de toute la transformation de l'Europe centrale et orientale. Ça avait commencé par une chaîne humaine au cours de l'été dans les Balkans, et puis il y avait eu les élections plus ou moins démocratiques au Parlement polonais, le petit déjeuner à la frontière hongroise. Et cette libéralisation, finalement, elle intervenait à peu près partout. La RDA n'était pas du tout un cas isolé. Mais nous n'en avions pas totalement conscience de cette réalité. Alors bien sûr, il y avait quand même la télé de l'Ouest que l'on arrivait à suivre, et donc on savait un petit peu ce qui se passait. Et puis vous avez évoqué tout à l'heure la place Tiananmen, les événements qui se déroulaient là, les chars qui avançaient. Nous étions quand même un petit peu conscients de cela. Et moi, en 89, j'étais soldat dans l'armée populaire nationale. Et pour les cérémonies du 7 octobre, qui était la fête nationale, pour célébrer les 40 ans de la RDA, nous étions à la caserne, dans nos chambrées, avec les Kalachnikovs chargés, et puis à nous poser la grande question de conscience, chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qu'on fait si les camions arrivent sur la place d'armes, si on nous demande de monter dans les camions et d'aller réprimer la foule. Qu'est-ce qu'on fait? C'était vraiment une situation très, très compliquée pour chacun d'entre nous et un cas de conscience.
Bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut s'arrêter ici. Et bonne fin de soirée à tout le monde.